Sylmar Autoville, votre détaillant de pneus pour véhicules classiques et antiques, vous souhaite un bon balado. Consultez leur site web au www.sylmar.ca. Roule ton passé au présent.
Mais ça lance la saison de baseball de belle façon quand même. Ça va être un bon tournoi, ça va être le fun à surveiller. Puis écoute, t'as la meilleure gang, mais je vous dis une chose, même si c'est la meilleure équipe américaine, c'est pas garanti que les Américains vont remporter ce tournoi-là. Ça va être une très, très forte compétition.
Puis Marc, on n'a pas mentionné le Japon, mais ils vont avoir leur équipe A, eux aussi.
Oui.
Tu peux être sûr de ça, là.
Au jeu! Deuxième prise! Compte complet!
Le balado compte complet est présenté par Don Match à Boucherville et au Saguenay, votre centre d'entraînement et boutique de baseball avec cage de frappeur intérieur et lance-balles. Fier partenaire de votre passion. Voici vos animateurs, Alain Huzreau et Marc Griffin.
Bienvenue à Compte complet. Alain Huzreau en compagnie de Marc Griffin. Les camps d'entraînement sont en marche. Les parties hors concours ont commencé. On est sur le point de commencer la classique mondiale. Il y a beaucoup d'informations. D'abord, l'alignement partant des sujets de cet épisode. Une présentation de Lester, qui est le choix numéro un des amateurs de baseball et des casse-croûtes depuis 1931. Et vous pouvez évidemment utiliser les produits Lester comme bon vous semble pendant un match, en famille, un party. Bref, Lester est toujours avec vous. On va parler de plusieurs choses. On va parler de la situation des Blue Jays de Toronto. Il y a eu quelques changements dans l'arrivée de Max Scherzer. Les Yankees de New York... Écoute, il arrive quoi de ce côté? On court encore après les frappeurs droitiers. C'est pas compliqué, là. On n'a pas encore solutionné, semble-t-il, ce qui va se passer de ce côté. Il y a des surplus de joueurs. Il y en a certains qui vont jouer visiblement moins que d'autres. Notre nouveau segment Point de contact qui va mettre à contribution l'intelligence artificielle. C'est un segment qui sera présenté maintenant à chacun de nos balados. Et on va parler de cette nouvelle sensation qui va commencer la saison probablement à Pittsburgh, Connor Griffin. Pas de lien de parenté avec Marc, pas encore, connu à tout le moins.
Pas trouvé encore.
Bon, c'est ça. Et Marc, il y a un texte qui est sorti là, ces derniers jours là, relativement à la moyenne au bâton. Là, on va en parler, mais disons que je sais pas que c'est frustrant un peu, là, mais il y a des gens qui auraient eu intérêt à nous écouter un peu au cours des dernières années, un peu plus, ou porter attention à ce qu'on dit. On va dire ça comme ça. Il y a un Québécois qui s'en va avec les Blue Jays de Toronto. Puis la zone de prise électronique, qu'est-ce qu'on peut retenir de ces premiers jours de camp d'entraînement? Il y a déjà des tendances. Marc, tout de suite, on va commencer avec les Blue Jays de Toronto. Marc Scherzer qui revient. Est-ce que ça te surprend?
Non, ça ne me surprend pas. Pour deux ou trois raisons, là, fait quelques raisons. La première raison, c'est que je pense qu'il y avait vraiment un lien fort avec Scherzer et certains lanceurs actuels et l'organisation. Je pense que Scherzer voulait revenir. Ça, c'est la première des choses. Deuxièmement, t'en as jamais assez, Alain, de lanceurs partants, la profondeur. Tu sais, Bieber commencera pas la saison. Yacevedge, semble-t-il, si ça va être, on va le monter tranquillement. Ça veut dire quoi? C'est peut-être trois, quatre manches à la fois. Fait que ça va, tu sais, ça te prend des bras. Il y a tout, t'as toujours besoin de lanceurs. Puis bon, il va amener. Tu sais, tu regardes ce qu'il a fait, là. Il est pas mal fait, là. Mais je pense que l'exemple des Dodgers au cours des dernières années, puis surtout l'année dernière, c'est en pilsant des lanceurs partants, puis à un moment donné, ça va t'aider. On se rappelle que les Blue Jays sont dans la division Est, Alain. Ça sera pas facile cette année. Tu sais, Baltimore s'est amélioré. Les Red Sox vont être là. Donc, ça... moi, je pense que c'est correct. C'est correct. Il y en a encore un petit peu à donner, mais tu sais, attendez-vous pas à ce qu'ils lancent 200 manches, là. C'est pas là qu'on s'en va. Mais au moins, tu sais, ça t'appelle la profondeur. Tu sais, Cody Ponce arrive.
Ouais.
Est-ce que ça va bien aller dès le départ? Est-ce qu'il va falloir lui donner un peu de repos? Donc, des Berrios puis des Eric Lauer, ils vont voir leur efficacité là, dans le sens qu'ils vont être utilisés. Alors, tu vas avoir besoin de tout ton monde, mais je pense que c'est correct là, d'avoir Max Scherzer autour de l'équipe.
Oui, Cody Ponce, Marc, ça va être quelque chose entre, je vais faire le parallèle, entre Miles Mikolas et Kyle Hart. c'est large, tu vas me dire, mais je veux dire, c'est ça qu'on va voir. C'est un point d'interrogation. Il n'y a pas de certitude dans son cas. Carl Hart, qui est allé à San Diego, qui a connu des bons moments, mais reproduit ce qu'il a fait en Asie, il n'y a pas de garantie. Miles Mikolas est arrivé tout de suite dans la rotation. Ben lui, il a eu du succès. Point partant numéro un, mais c'est un gars qui a été fiable.
Ben, écoute, puis t'as raison. C'est un peu là, un coup de dé. Là, qu'est-ce qu'on va avoir? Alors, évidemment, l'ajout de Dylan Cease vient stabiliser avec Gausman, vient stabiliser là, ton haut. Mais Yacevich, ça a été excellent. Puis je pense que son avenir est très, très bon. Mais ça reste quand même que ça va être sa saison recrue. Pense, tu viens d'en parler. Bieber ne commencera pas l'année en parfaite santé. Fait que, c'est bien. Tu regardes les noms, c'est super. Mais les Eric Lauer vont être aussi importants, sinon plus, que l'année dernière. Puis écoute, Berrios a quand même lancé 93, presque 94 000 $ à son dernier départ. Est-ce que lui aussi, il a pas aimé son utilisation l'année dernière en fin de saison, veut peut-être se racheter. Donc, mais ça reste que, à défaut d'avoir tant de qualité, t'as quand même des possibilités intéressantes là au niveau des lanceurs partants chez les Blue Jays, surtout avec l'ajout de Max Scherzer.
On va parler des Yankees de New York. Là, il y a du monde en surplus. On est pris encore avec deux joueurs. Grisham étant un de ceux-là. Grisham, puis encore, c'est absolument incompréhensible ce que les Yankees ont fait dans ce dossier-là, Marc. En plus, on va le dire, Marc, on l'avait vu venir. Parmi tous les joueurs qui avaient reçu une offre qualificative, les joueurs les plus susceptibles de dire oui, on en avait identifié deux. Grisham était un des deux. L'autre, c'était Gleyber Torres. Puis Yankees se sont fait prendre des culottes baissées avec ce dossier-là, de sorte que, au moment où on se parle, il y a un gars de trop, et peut-être même deux. Puis là, on va commencer avec Spencer Jones. Tu l'as vu à l'œuvre, tu as l'impression que c'est un clone de Aaron Judge, peut-être en plus gros encore. Tu comprends? Frappeur gaucher, qui a frappé 35 coups de circuit l'année passée. Oui, c'est beaucoup de retrait sur des prises, mais on s'en formalise moins lorsque tu frappes la longue balle. Tu l'as vu à l'œuvre, là, Spencer Jones.
Ben écoute, il y en a déjà trois coups de circuit, Alain, au camp d'entraînement. Écoute, il est imposant. Je sais que Jack Aglione a connu sa part d'ennui lorsqu'il a été rappelé l'année passée, mais là, il connaît tout un camp d'entraînement. C'est qu'à un moment donné, il va falloir que tu fasses jouer ces gars-là. En passant, Spencer Jones a 24 ans. Ouais. C'est pas un gars de 19 ans, là. C'est pas un Connor Griffin qu'on va parler tantôt. C'est un gars. Tu sais, donc, il y a une maturité physique de toute évidence, mais je pense qu'à 24 ans, il est capable, tu sais, il faut lui donner la chance, en tout cas, selon moi, à ce gars-là. Puis là, en embauchant Cody Bellinger, on sait qu'Aaron Judge va jouer au champ droit, à Bellinger. Mm-hmm. Je trouvais que c'est l'occasion en or que, au moins un des jeunes des Yankees, dont Spencer Jones, pouvait avoir la chance de jouer. Mais, écoute, tu sais, moi, je me mets dans la peau de Spencer Jones. Il jouerait probablement dans les 29 autres équipes, puis il serait là. Lui. Il jouerait dans les ligues majeures. Là. Alors, j'espère que les Yankees... Tu sais, Grisham a connu une bonne saison. On peut pas lui enlever. Il a connu une bonne saison, Alain. Mais regarde les deux autres auparavant. C'était vraiment pas facile. On se demandait d'ailleurs s'il allait faire l'équipe l'année dernière.
Oui.
Puis là, ben, en acceptant l'offre qualificative, ça met tout le monde dans une drôle de situation, mais... Écoute, moi là, j'étais un partisan des Yankees, je veux voir Spencer Jones. Imagine-toi, là, t'as Judge puis Jones puis Stanton dans la formation. Écoute, juste physiquement, c'est intimidant, là, comme là. Puis en plus, il est gaucher, là, tu sais. En tout cas, moi, je trouve que j'aimerais ça que les Yankees, je sais que les Yankees sont là pour gagner, mais c'est pas un jeuneau de 21 ans qui arrive, là. Il a de l'expérience, il est fort physiquement, il va s'asseoir à côté de Judge puis Stanton dans l'abri. Il va grandir vite. Moi, je trouve que c'est un gars qui devrait commencer la saison à New York.
Oui, mais Marc, c'est un gars qui est passé par Vanderbilt, donc il a vu de la grosse balle au niveau universitaire aussi.
Exact.
Ben là, il arrive quoi, Marc, à moyen terme, à Ser Anthony Dominguez? Je m'excuse, là, mais est-ce qu'il y a un avenir avec les Yankees de New York? J'ai posé la question directement comme ça, là.
Ouais, pas Ser Anthony, par exemple, mais...
Non, pas Jason Dominguez, ouais. Ser Anthony, il faut...
Mais, écoute, Alain, tu sais, on sait une chose, c'est que Dominguez jouera jamais au champ centre. Fait que là, lui, ça va être un coin. Puis là, ben présentement, comme on a dit, avec Bellinger, est-ce qu'on peut mettre... Bellinger peut jouer au champ centre, vraiment. Mais Moi, je pense que il a joué quand même un petit peu Dominguez. T'sais, je veux dire, il a eu son un peu temps de jeu, il n'a pas eu un poste régulier. Mais je pense que c'est un petit peu en deçà des attentes au niveau du rendement.
Ouais.
C'est un peu plate ce que je vais dire, mais un changement d'air lui ferait du bien.
Oui.
Puis on lui souhaite, parce qu'Alain, présentement, là, il est le cinquième voltigeur. Fait que moi, je vois pas comment ce gars-là va avoir du temps de jeu encore avec les Yankees cette année. Puis pourtant, il n'y a pas d'affaire à jouer dans la Ligue mineure. Il n'y a pas d'affaire à retourner là. Donc, tu sais, c'est ça. C'est pour ça que lorsqu'on parlait avant la mise sous contrat de Bellinger, on disait ils sont pas mal pris les Yankees si Bellinger s'en va ailleurs. Ouais. Là, c'est sûr que Bellinger, il a sa feuille de route, puis bon. Mais là, il va falloir prendre une décision. Alain, tu peux pas le laisser pour arrêter là non plus.
Oui, puis à l'intérieur de l'organisation, il y a une préoccupation, Marc, quant au manque à l'équipe de production du côté droit. Ça veut dire qu'on est inquiet pour Stanton. C'est pas compliqué. Là, on a mis ce contrat Randall Grichuk. Tu comprends? Ouais. S'il fait l'équipe, c'est pas cinquième, c'est sixième voltigeur là, que Dominguez va tomber. Paul DeJong est au camp d'entraînement. On a remis ce contrat Rosario. Je veux dire, on est préoccupé par le manque de production du côté droit chez les Yankees de New York. Je ne sais pas quoi penser à cet égard. Est-ce que c'est un manque de prévoyance de leur côté? J'ai beaucoup de difficultés. Puis moi, je pense que c'est l'inquiétude vis-à-vis de la situation de Stanton. Est-ce qu'on prend pour acquis que ce gars-là jouera à peu près quoi, 100-110 matchs, puis qu'il va falloir compenser pour ses absences? C'est peut-être ça, là.
Oui, Alain, c'est pas mal ça depuis quelques années là, dans le cas de Stanton. Ben oui. Mais en tout cas, il y a quand même des pistes de solutions là, chez les Yankees, mais il va falloir les trouver, il va falloir les jouer. Mais c'est quand même une des équipes qui a posé le moins de gestes là, durant l'hiver. Ouais. On n'a pas été très agressif, à part évidemment le retour de Bellinger, là, mais on souhaite le retour de Garrett Cole. Il va y avoir des bonnes choses. Les Yankees vont être dans la course, mais on se fie beaucoup à ce qu'on a, qu'on avait en place. Puis écoute, on n'avait pas une mauvaise équipe. Mais le dossier, il y a deux dossiers selon moi, c'est qui va jouer à la réco?
C'est pas encore sûr, hein?
C'est pas encore sûr. Et comment on va disposer le champ extérieur? C'est-à-dire qui va jouer, qui va jouer, tu sais, qui jouera pas, qui va écoper. Là, c'est un peu ça qui se passe là, chez les Yankees.
Oui, à suivre. Maintenant, la classique mondiale, Marc. Écoute, les États-Unis sont organisés pour pas avoir l'air fou. Je pense qu'on est tanné là, de se faire damer le pion par la République dominicaine et le Japon. Qui ont pris beaucoup de place au cours des dernières années. Le Canada, on peut en parler brièvement, mais au Monticule, ça va être difficile. Mike Soroka et Jameson Taillon sont les deux premiers partants. Tu regardes le reste des grosses équipes. Écoute, on va être compétitif.
Ouais.
Mais les Américains sont organisés pour, justement, non seulement pas avoir l'air fou, mais pour gagner ce tournoi-là.
Ben écoute, premièrement, bon, le Canada se retrouve dans le pôle avec Porto Rico, Cuba, le Panama et la Colombie. On sait que ce sont les deux premiers là, de chaque...
Ça va être difficile.
Moi, je pense que le Canada il serait capable de se faufiler. T'sais, Porto Rico n'a pas son équipe complète. On sait qu'il y a des problèmes d'assurance puis de joueurs. Bon, les gars comme Lindor, par exemple. Cuba, bon, on sait en tout cas que les dirigeants n'ont pas eu leur visa.
Ben oui.
je sais pas qu'est-ce que ça va donner, Cuba, mais c'est sûr que Cuba n'est plus ce que c'était, là, on va se le dire, à ce niveau-là. Le Canada a quand même certaines possibilités, Alain. Ça peut frapper. Je regarde, évidemment, bon, on a un peu d'expérience. C'est sûr que Josh Naylor, avec l'absence de Freddie Freeman, Naylor devient un peu le capitaine de cette équipe-là là, et la force de frappe. Mais tu sais, je regarde des Owen Casey, des tu sais qui, on sait... est capable de bien frapper. Attention, un gars comme Tyler Black, on ne connaît pas beaucoup, mais c'est tout un frappeur.
Ouais.
Deux bons receveurs quand même, en Bo Naylor puis Liam Hicks. C'est sûr que ça va être au Monticule, Alain, que ça va être un petit peu plus difficile. Mais j'ai bien hâte de voir, bon, évidemment, Philippe Aumont revient un peu, encore une fois, de sa retraite, qu'est-ce que ça va donner. On verra bien, mais tu sais, c'est pas évident pour Philippe Aumont. Mais Antoine Jean fait partie de l'équipe, Alain. Et l'autre le gaucher qui est à surveiller, c'est Matt Wilkinson, qui est un jeune gaucher assez costaud, lance des prises, et dans l'organisation des Guardians, qui va être à surveiller. Eric Sarantola, qui est là aussi, on a déjà fait une entrevue avec lui. Fait que ça va être beaucoup, tu sais, ça sera pas mauvais, Alain. Je pense que le Canada est peut-être capable de passer son pot. Là, par la suite, ça va être un petit peu plus difficile. Mais Alain, si on veut penser un petit peu plus loin, si jamais le baseball majeur décide d'aller aux Olympiques ouais. en 2028, ben c'est pas une mauvaise façon de se dire, parce que là, il y aura pas d'autres classiques mondiales d'ici là, là. Donc, c'est une belle occasion quand même de démontrer qu'on est capable de faire quelque chose avec l'équipe canadienne. Mais dans les autres poules, Alain, écoute, les Américains, tu l'as dit, c'est un pôle qu'on va passer à travers, je vais dire, assez facilement, de toute évidence. Mais là, ce qu'on va arriver pas dans le carré d'as, mais presque, bon, on a le Japon, évidemment. La République dominicaine, je ne sais pas si tu as vu la formation. ça va être pas mal le fun. Les bons voyageurs, mettons. Ouais. Soto va être là. Tatis va être là. O'Neill Cruz va être là. Et Julio Rodriguez. Fait que ça, c'est juste tes voltigeurs de centre, tes voltigeurs statiques, puis après la suite, tu as tes. T'as Vlad Guerrero qui va être là. Bon, ben. Ça va être du bon baseball, Alain. C'est la meilleure équipe américaine jamais présentée à la Classique mondiale. Pour ça, ça va être très, très. Ça va être bon. Il y a quelques absents de taille dans d'autres équipes, c'est clair.
Ouais.
Mais ça va être quand même le fun à suivre. C'est sûr que c'est le début de la saison, puis là, ben. Même déjà l'équipe américaine, on a dit à Scobo, ça va être un départ, puis après ça, tu retournes au camp des Tigers. Il faut être très prudent dans ces affaires-là. Mais ça lance la saison de baseball de belle façon quand même. Ça va être un bon tournoi, ça va être le fun à surveiller. Puis écoute, que le meilleur gagne, mais je vous dis une chose, même si c'est la meilleure équipe américaine, c'est pas garanti que les Américains vont remporter ce tournoi-là. Ça va être une très, très forte compétition.
Oui, peut-être un avant-goût de 2028, ça aussi. Puis, Marc, on n'a pas mentionné le Japon, mais ils vont avoir leur équipe A, eux aussi. Tu peux être sûr de ça, là. Et il y a quelques bons joueurs japonais là, dont on a vaguement entendu parler au cours des dernières années. C'est le temps de la question de la semaine. Si vous avez envie d'une bonne pizza, on vous propose Crabtree Pizzeria, qui vous garde depuis 54 ans. C'est la meilleure pizza dans la Naudière. Et il y a 5 succursales pour vous servir. On vous invite à aller consulter le CrabtreePizzeria.com. Donc, on s'attend sur les Blue Jays de Toronto. C'est quel lanceur partant voyez-vous qui aura le plus d'impact au sein de l'équipe? Il y a une liste de noms. Gossman, Cease, Ponce, Savage, Berrios, Scherzer, Lauer. Votre choix est aussi bon que le nôtre. On vous invite à vous prononcer. Allez sur notre page Facebook, facebook.com/compte-complet-balado.
Alain, c'est le moment de souligner notre partenaire, notre principal partenaire qui est Plan de match. Pas besoin de vous dire que le printemps est à nos portes. Ça veut dire que la saison de baseball s'en vient. Donc, on a besoin de s'équiper. Allez visiter les gens de Plan de match. Il y a deux endroits à Boucherville et à Jonquière. À Boucherville, également, Cache de frappeur. Mais surtout, allez sur leur boutique en ligne. Ils ont tout l'inventaire sur leur site web. Donc, boutiqueplandematch.com. Alain, on est fort excité maintenant d'avoir notre nouvelle chronique qui s'intitule « Le point de contact ». Et nous avons l'immense plaisir de recevoir Jean-Michel Arsenault. Et Jean-Michel, c'est qui Jean-Michel Arsenault? Ben, il va nous expliquer un peu c'est qui. Mais en même temps, c'est un ami, c'est un amateur de baseball, c'est un gars qui connaît beaucoup ce qui se passe dans le monde des affaires, dans le monde de la technologie. Tout ça associé évidemment au baseball. On va s'amuser avec ça, avec de fort belles discussions. Et nous avons le plaisir d'accueillir Jean-Michel Arsenault. Salut Jean-Michel.
Bonjour, merci.
Ben Jean-Michel, je vais te laisser te présenter un peu, puis après ça, ben on part notre discussion.
Ouais.
Yes. Bon, ben moi, c'est Jean-Michel. Je suis entrepreneur techno depuis plusieurs années. Je m'intéresse énormément à tout ce qui est business du sport, tout ce qui est sport tech. Évidemment, beaucoup au baseball, de là où on se connaît, messieurs. Puis, comme premier sujet pour cette chronique-là, j'avais envie de vous amener dans quelque chose qui est très... C'est le bon timing, en fait. C'est tout ce qui est utilisation d'intelligence artificielle, mais pour tout ce qui est des fantasy pools. Donc, c'est le bon moment de l'année pour commencer à parler de ça. Je ne sais pas si, messieurs, vous avez déjà vos soirées de pool de prévu. Moi, c'est le cas. J'ai bien hâte.
Oui, là, on amalgame intelligence artificielle. Quand on regarde globalement, Il y a des gens qui en ont peur. On ne sait pas où ça s'en va et tout ça. Je pense que c'est un excellent outil quand on sait s'en servir. Et c'est à, je pense que le baseball s'y prête. Il y a beaucoup de données. On s'y perd là-dedans. Est-ce que l'intelligence artificielle peut nous aider à nous y retrouver davantage que de s'y perdre? Je pense que c'est le principal défi, Jean-Michel.
Ben absolument, puis c'est un petit peu ça l'objectif de cette chronique-là, parce que on peut, c'est comme n'importe quoi en technologie. Si on s'en sert bien, ça peut nous être très utile. Si on s'en sert moins bien, ben ça peut nous causer des fois plus de problèmes que d'avantages. Donc voilà, utilisation de l'intelligence artificielle pour les pots. Historiquement, moi, je m'achetais toujours trois, des fois même des années, parce que je suis vraiment un fan, là, magazine de baseball. Fait qu'on peut penser à tout ce qui était les Lindy Sport, Atlanta Sport, Baseball America, même celui de Ron Chandler, Baseball Forecast. Mais ensuite de ça, j'ai évolué. J'utilisais peut-être un magazine plus des sites web. Puis depuis l'année dernière, j'utilise ben quelques données web, mais l'intelligence artificielle. Fait que c'est sûr que ben ça me fait à 12 piastres de magazine, ça fait un petit peu plus d'argent dans mes poches pour aller voir du sport. Fait que ça, c'est sûr que c'est un bon avantage. Je suis certain que parmi vous, il y en a déjà plusieurs qui ont utilisé certains outils d'intelligence artificielle, des outils génératifs là, comme Gemini, ChatGPT, Grok, Claude. Le fonctionnement est simple. On utilise un prompt pour obtenir une information. Puis, tu sais, un prompt, on pourrait résumer ça par une instruction rédigée en langage naturel. Donc, quelque chose comme si on parlait, que l'on soumet à l'intelligence artificielle générative pour obtenir une réponse spécifique. Mais là, quand on fait un prompt, c'est comme quand on fait une demande à quelqu'un. Si le prompt n'est pas clair ou si la demande n'est pas claire, bien, l'information ne sera pas claire non plus. Dans le cas des pooleurs, si on demande, par exemple, je donne un exemple, la revue des 10 meilleurs receveurs, ben c'est important de préciser c'est quoi les statistiques qui vont nous intéresser, c'est quoi les règles de notre pool, c'est ouais. Quoi les catégories là, t'sais, qui comptent pour des points, c'est quoi le time frame que vous voulez regarder, si voulez-vous regarder la carrière du joueur au complet, voulez-vous regarder seulement la dernière saison. Donc, dépendamment de ce que vous cherchez, c'est important de préciser ça dans un prompt pour avoir la bonne information. Je pense qu'une partie du secret, quand on fait un bon prompt, on peut envoyer un prompt puis demander à l'intelligence de nous trouver les données, les sources de données. Mais moi, ce que j'aime bien faire pour avoir de la précision, c'est de donner les sources que moi, j'affectionne particulièrement. Puis là, je pense que, messieurs, vous allez très bien connaître ces sites-là. Là. FanGraphs, Baseball Reference, ouais. Savant de MLB, des sites de prospects, FanTrax, le site de RDS, vos blogueurs préférés. Le plus que vous donnez d'informations intéressantes, le mieux ça va être pour la performance de l'information qui va vous être sortie. Puis moi, j'affectionne particulièrement la suite de Google, donc Gemini. Puis, il y en a certainement parmi vous qui ont accès à une fonction qui s'appelle Deep Research. Moi, je vous le recommande fortement là, pour savoir si vous en avez accès. Vous cliquez sur le bouton « Outils » dans Gemini, puis vous allez pouvoir sélectionner Deep Research si vous l'avez. Ça prend un petit peu plus de temps à sortir l'information, mais l'information est encore plus détaillé à ce moment-là. J'ai deux petits trucs de plus pour vous aider dans votre prompt. Là. Moi, j'adore voir, quand je vais sur des sites web pour comparer, j'aime pas ça voir une seule personne. J'aime ça voir l'avis de plusieurs experts ensemble. Fait que moi, j'aime bien prendre les différentes sources de données puis les comparer ensemble pour faire ce que, bon, je sais pas c'est quoi le terme parfait en français, là, mais ce qu'on appelle des « consensus picks ». Fait que tu vois chacune des sources, comment qu'ils classent. Puis à partir de là, ben ça te donne une idée, toi, des différentes sources que tu affectionnes. Tu es capable de comparer comment eux classent les joueurs pour toi. En même temps, un autre élément qui peut être intéressant, ben c'est de comparer des fois les différents modèles. Fait que, tu sais, comparer Gemini versus ChatGPT. Tu sais, ça revient à la même affaire quand j'étais avant l'ère de l'intelligence artificielle. Ben, j'achetais plusieurs magazines parce que je me disais, ben, ils ont différents experts, fait que ça va me faire une tête. Ben, quand on utilise un prompt, ben c'est pour se faire donner de l'information qu'on a de besoin puis qu'on trouve pertinente. Fait que moi, ben, je sauve des sous un peu en utilisant l'intelligence artificielle versus acheter des magazines comme avant, mais en même temps, ça me permet d'avoir l'info des sources que j'ai de besoin. Puis ben c'est sûr, en bout de ligne, c'est mon instinct pooler qui va décider des choix que je vais faire. C'est juste, je veux me faire inspirer par des experts, mais en bout de ligne, je vais vivre avec les conséquences de mes choix.
Bon, autrement dit, Jean-Michel, là, si on met ça dans un langage de pooler de baseball, là, moi, plus précis, autrement dit, si je demande, par exemple, quels sont les 10 meilleurs receveurs, je vais avoir une liste. Mais si je demande, est-ce que je peux avoir dans mon pool, c'est important que j'ai bon, telle statistique, d'aller dans encore plus précis, faire la demande aussi de mes sites préférés, de mes experts préférés. Puis là, je vais avoir évidemment une panoplie d'informations additionnelles. J'aurai peut-être pas la même liste que si je demande en général quels sont les 5 ou 10 meilleurs receveurs. C'est un peu ça, là.
Bien, absolument. Puis, tu sais, ce qui est intéressant, c'est que tu, en choisissant tes propres statistiques, tu sais, des fois dans les magazines qu'on achetait auparavant, là, les choix des statistiques, des fois, c'est ouais, discutable. Moi, les choix qui étaient présentés, je veux dire, la moyenne au bâton, le OBP, les circuits, les points produits, c'est souvent les quatre qui étaient comme mises de l'avant particulièrement. Ben, c'est peut-être pas celle que moi, j'affectionne particulièrement, là, tu sais, la. Je te dirais, en même temps que tout ça, avec StatCast qui a été implanté, là, ça fait déjà peut-être un petit peu plus de 10 ans par le baseball majeur, ça nous a donné accès à beaucoup de statistiques supplémentaires. Le launch angle qu'on entend parler souvent là, dans les dernières années, ben, il est souvent pas sur les sites web. Fait que, tu sais, quand on trouve un site web qui l'a, ben, ça peut être une donnée qui peut être intéressante pour nous. Puis surtout quand il y a des nouveaux joueurs qui arrivent dans des nouvelles équipes, ben, voir tel stade, vas-tu être ouais, bon pour lui ou pas, tu sais, c'est sûr. Moi, j'aimerais bien que Wilson Contreras profite bien du stade à Fenway.
Ben écoute, parle à Alain des joueurs qui jouent à Denver.
Ouais, ben ouais. Ou le contraire à Saint-Louis. Pendant Contreras, justement, c'en est un parfait exemple. Combien de circuits va-t-il frapper au Fenway Park quand la transaction s'est faite, Marc, tu te rappelles, on l'a dit, ce gars-là a le potentiel d'élever ses statistiques au-delà de ce qu'il a démontré à Saint-Louis. C'est ce que l'intelligence artificielle va te donner sans que tu aies à fouiller trop. Hein. Jean-Michel, c'est un peu ça, là.
Ben, en fait, c'est du prédictif. Fait que c'est sûr qu'il peut sortir toute l'information sur ce qu'il y a eu comme dans le passé, mais j'aime bien m'en servir comme servir de cette intelligence-là pour peut-être orienter certains de mes choix. Ouais. Là, t'sais. Fait que c'est sûr que ça devient bien intéressant. Puis messieurs, j'en ai fait un exemple. J'avais sorti le top 10 des meilleurs catchers pour des pools fantasy pour la prochaine saison. D'ailleurs, on va le rendre disponible là, cet exemple-là pour que les gens, s'ils veulent voir à quoi ça peut ressembler comme résultat, c'est quand même très intéressant. Puis parce que 10, des fois, c'est un petit peu long. Je pourrais vous faire un petit compte-rendu là, des 5 prédictions de l'IA en utilisant le prompt que j'ai eu. Puis il y a quand même certaines données intéressantes. Je dirais pas nécessairement des grandes surprises, mais des données intéressantes. Le premier, c'est sans surprise, ben oui, c'est Cal Raleigh. Donc, le Big Dumper. Par contre, ce que je trouve bien intéressant, c'est que dans les descriptifs que l'IA m'a donné, il m'a dit de ne pas m'attendre à une saison de 66 lui encore. Lui, il en prédit. Ben non, c'est ça. Mais lui en prédit environ une quarantaine avec à peu près 110 points produits. Mais ce qui est particulier, c'est que c'est rare qu'à une position, tu sais, tu vas perdre peut-être 25, entre 20 puis 30 % de ta performance, mais tu es encore ouais, le premier. Puis en caractère gras dans la réponse, elle disait son plancher est plus élevé que le plafond de tous ouais, les autres concurrents. Fait que c'est sûr qu'on lui prédit une saison peut-être un petit peu moins exceptionnelle, mais c'est bon. Puis ce que je trouvais le fun, c'est que sans même que je donne l'information à l'intelligence artificielle, il est vraiment allé chercher des joueurs qui vont avoir beaucoup d'opportunités d'aller au bâton. Fait que c'est sûr, bon, il y a des postes un petit peu comme les gardiens de but au hockey, il y a presque des postes qui sont partagés, là. Mais Cal Raleigh est là pour la majorité des lanceurs des Mariners. Fait que ça, c'est quand même bon. Puis, tu sais, ce que j'aimais bien aussi, c'est qu'on lui prédisait une bonne saison encore défensivement, ce qui lui assure encore plus à long terme de peut-être pouvoir avoir plus de matchs. Fait que ça, c'est sûr que c'était quand même bien intéressant de ce côté-là. Puis une autre donnée, petite surprise qui était le fun aussi, c'est que l'intelligence artificielle a décodé que le fait d'avoir un frappeur ambidex de cette manière-là, qu'il y a de la puissance des deux côtés, l'intelligence artificielle, tu sais, me disait, bon ben, 38 circuits comme gaucher, 22 comme droitier, ben juste ces circuits comme gaucher, c'est plus ouais. que le plus proche de la position, puis 22 comme droitier, il serait le quatrième parmi tous les receveurs si on enlevait les 38 comme gaucher. Fait que tu sais, c'est juste pour, ça montre le côté historique ouais. de la saison qu'il y a eu l'année dernière, c'est quand même un fait exceptionnel, c'est encore le premier. On va que, ensuite avec Will.
Ce que j'allais dire, c'est que, tu sais, bon, moi, dans ma tête, j'ai mes, mettons, mes cinq receveurs, tu sais, si on va aux cinq meilleurs. Mais moi, je ne suis pas allé voir sur tu sais, j'ai pris ce que moi, j'aime. Ouais. Alain, je sais que, bon, Alain, tout le monde sait qu'il aime beaucoup les statistiques avancées. Tu as probablement tes choix aussi, Alain. Mm-hmm. Peut-être que ce serait le fun, parce que, bon, Kyle Riley, je pense qu'on ne s'obstinera pas trop, là. Avec la qualité du joueur. Mais est-ce que on devrait nous mentionner nos joueurs, puis après ça, on fait la comparaison avec ce que t'es donné, Jean-Michel, ou est-ce qu'on fait l'inverse?
Ben moi, je ferais l'inverse, parce que c'est sûr que pour ceux qui utilisent les outils comme ChatGPT et Gemini souvent, il y a une tendance à vouloir nous plaire. Mm-hmm. Fait que c'est sûr que si on lui donne notre liste d'avance, ben, il va peut-être nous sortir quelque chose qui va lui ressembler un petit peu. Fait que moi, je n'irai pas de ce côté-là. Je le laisserai faire. Puis okay. Ensuite de ça, ben, tu sais, c'est un processus d'échange. Tu peux lui demander de se challenger certains éléments ou pourquoi ce joueur-là en deuxième. Puis, tu sais, celui qui est deuxième dans la liste, c'est William Contreras ouais. Des Brewers. Qui, ben, historiquement, a été très bon, mais l'année passée a été blessé. Puis, selon les rapports qu'il y a trouvés au niveau de son doigt, ça a été réparé chirurgicalement. Tout devrait être beau pour sa mécanique de swing cette année. Donc, on le place en deuxième. Bon pour la moyenne, bon pour la puissance, ce qui est rare quand même pour un receveur aujourd'hui. Un très haut hard hit percentage, mm-hmm. qui est quand même aussi intéressant là, pour lui. Au numéro 3, ben, une vedette montante quand même, dans une équipe qui va avoir un nouveau stade et une nouvelle ville bientôt. Shea Langelier, je ne sais pas si je oui. le prononce comme il faut, mais qui est avec les Aces, qui compare vraiment comme à une version plus jeune de Cal Raleigh. L'IA prédit que s'il y en a un qui pourrait un jour, parmi les catchers qui sont là, aller rejoindre un petit peu au niveau de la puissance, puis d'une saison qui se rapproche à peut-être ce qu'on a vu, bien, il y aurait peut-être ce joueur-là là, dans les prochaines années. Un bon début de carrière, augmenter sa moyenne au bâton, ce l'IA l'a très bien remarqué. Donc, ça donne un bon rendement. Puis c'est probablement le joueur avec... toutes les autres jeunes des Aces qui va être bien protégé aussi dans sa place à l'alignement. Fait que je pense que ça va bien aider. Numéro 4, moi, c'est une surprise parce que c'est un joueur que je n'affectionne pas particulièrement. Will Smith des Dodgers qui glisse versus d'autres saisons. En même temps, je me dis, il y a tellement de gros frappeurs dans cette équipe-là qu'à un moment donné, ben, c'est sûr que ça te donne des opportunités. Mais il y en a beaucoup de places, il y a beaucoup de vedettes qui en utilisent là, de ces opportunités-là. Fait que c'est sûr que ça devient fatigant. Par contre, j'aime bien le jeune Dalton Rushing qui va probablement prendre un petit peu de place à Will Smith cette saison. Donc, quand même quatrième position, un joueur qui est très fiable. Mais ce qui est intéressant, c'est que l'IA remarquait que avec l'émergence de Dalton Rushing, ben, tu vois, les joueurs qu'un profil comme Will Smith pourrait devenir des bons frappeurs désignés. Mais avec les Dodgers, je pense que Otani est quand même... Ouais. Je pense pas qu'il regarde Will Smith en se disant je vais peut-être me faire déloger. Là.
Ouais.
C'est sûr que ça, c'est un petit peu loin de la réalité. Fait que Will Smith en quatrième et le cinquième, Hunter Goodman des Rockies, qui, bon, on peut dire un petit peu la révélation de l'année passée au niveau des receveurs. Probablement la seule belle nouvelle des Rockies l'année passée. Là, son émergence a été bonne au niveau de la puissance, au niveau de la moyenne, selon l'intelligence artificielle. Et l'intelligence artificielle, on peut voir, quand vous allez voir le petit descriptif, on peut voir des fois l'ambivalence de certains commentaires parce qu'ils disent, ben c'est sûr qu'il est très avantagé par le fait de jouer à Coors Field. Mais en même temps, je veux dire, comment de joueurs qu'on a pris dans nos poules qui étaient avantagés par Coors Field, puis on le faisait en connaissance de cause, puis on était bien contents, là. C'est sûr que j'aimais le Trevor Story des Rockies peut-être plus que celui des Red Sox dans un pool actuellement. Mais il est là-bas, ça vaut la peine d'en profiter. Mais c'est important de préciser que il y aurait, selon l'intelligence artificielle, eu seulement 18 circuits l'année passée, 13 circuits au Coors Field, 18 dans les autres stades. Fait que c'est quand même de bonne augure, là, t'sais. Fait que oui, Coors Field, oui, c'est une belle opportunité, mais en même temps, il est capable de frapper la longue balle à l'extérieur de Coors Field. Fait que.
Puis toi, les données, Jean-Michel, quand t'as fait tes demandes, entre guillemets, là, à l'intelligence artificielle, est-ce que t'as considéré l'aspect défensif, où là, on parle vraiment de poule, puis là, c'est vraiment l'aspect offensif.
J'ai pas donné aucune demande à l'intelligence artificielle par rapport au niveau défensif. Par contre, quand on lit le petit document, on voit que l'intelligence artificielle en tient compte parce que si t'as pas ton rendement défensif, tu risques de pas jouer... aussi souvent peut-être que quelqu'un qui se débrouille bien en défensive, qui est capable de bien guider les lanceurs. Donc, c'est sûr que ça vient affecter un petit peu ton classement parce que c'est sûr que, bon, c'est le fun de frapper 20 circuits si tu vas 350 fois au bâton. Ça démontre que tu es puissant. Mais si tu as un joueur qui a un petit peu plus de performance au niveau défensive, garde le même rythme, ben, il pourrait se rendre à 25-30 avec 450 à battre. Ben, ça fait quand même la différence. Puis ça, l'intelligence artificielle, j'ai pas eu besoin de lui demander. Il a décodé ça directement. Puis il a pas été, puis tu sais, moi, je peux vous le dire, il a pas suivi du tout ce que moi j'aime des gens. Ben, je m'en sers quand même assez souvent. Puis moi, c'est des pools, des fantasy drafts. Keeper. Fait qu'on garde des joueurs à long terme. Fait qu'il n'y a pas sorti nécessairement des jeunes joueurs pour l'avenir. Là. Un Drake Baldwin que j'aime bien.
Mais tu pourrais y faire la demande. Tu pourrais faire la demande. Donne-moi ça qui arrive. Tu pourrais dire va me chercher les. Ouais. Absolument. Alain, je serais curieux de savoir les tiens.
Absolument.
En sachant la teneur de, tu comprends, de l'intervention de Jean-Michel aujourd'hui, j'ai fait ma liste, toi aussi, Marc. Puisque tu m'invites de cette façon-là, je plonge. Écoute, tu peux pas faire. Je veux dire, Kyle Riley, en défense, il n'est pas aussi efficace qu'il l'était. On voit ça, c'est la première des choses. Mais quand tu en frappes 60, je pense que tu n'as pas le choix de le mettre premier. Là. Puis Jean-Michel, ses arguments se tiennent. Il va perdre 25 coups de circuit, il va en frapper 35 quand même. Donc, je pense que Kyle Riley, c'est assez unanime. Là. Il frappe des deux côtés. C'est le leader de cette équipe-là. Donc, il est premier. Le deuxième, c'est un peu dans la même. Je te dirais, pour les mêmes raisons, pour son bâton. Et moi, j'ai mis Will Smith. Quand Will Smith est dans son élément, c'est un gars qui, MPP, c'est 900. Là. Puis, il va jouer. Rushing, il va falloir qu'il attende son tour. Il n'y a pas de place au premier but, à moins que Freeman se blesse. Puis, comme frappeur de choix, ben c'est ça. À moins que Otani tombe en pleine face quelque part, là. C'est fait qu'il va avoir son temps de jeu, Will Smith, à moins que son bâton devienne vraiment silencieux. Mais moi, je l'ai mis deuxième parce que, en raison de la qualité de son bâton. 3, 4 et 5. Troisième, j'ai mis peut-être, Marc, je pense que tu vas être d'accord avec ça, peut-être un des meilleurs athlètes présentement derrière le marbre, c'est Drake Baldwin, des Braves d'Atlanta. Mm-hmm. Jean-Michel, c'est un gars qui a été nommé toute étoile au hockey, au Wisconsin. C'est pas comme si c'était dans... Non. Tu comprends, là, c'est pas... un état de deuxième ordre au hockey. Moi, je pense que ce gars-là s'en va en haut. Puis en plus, il va avoir beaucoup de temps de jeu en début de saison. Est-ce que Sean Murphy va finir la saison avec Atlanta? On a embauché Jonah Heim, il faut bien le rappeler. Murphy commence la saison sur la liste des joueurs blessés. Donc, pour toutes ces raisons-là, j'ai mis Drake Baldwin à la troisième position. Quatrième, j'ai mis un jeune. Et là, j'avoue que c'est un coup de dé, mais je pense que lui s'en va au match des étoiles éventuellement. C'est Carter Jensen des Royals de Kansas City. Lui, c'est pour ça qu'on a échangé Freddy Fermin l'année passée aux Padres de San Diego. Ça fait longtemps que les Padres se cherchent un receveur. Ils l'ont peut-être, là. Mais Carter Jensen va jouer. Tu sais, je pense que le temps derrière le MAB à temps plein là, de Perez, là, ça tire à sa fin. Jensen a tous les outils. Il est prêt. Moi, je l'ai choisi quatrième. Puis regarde, il y a un paquet de noms de jeunes là, que j'aurais pu choisir là-dedans. Je pense à, juste pour leur défense, je pense à Patrick Bailey, que j'aime beaucoup. Kyle Teal, Marc, c'est un gars qu'on voit très, très gros. Logan O'Happy, que j'aime beaucoup. Mais dans l'autre, j'ai choisi Carter Jensen. Puis cinquième, ben, t'en as parlé tantôt, Jean-Michel. Moi, c'est Wilson Contreras. Moi, je m'attends de grandes choses de sa part. Il y a tout. C'est pas compliqué, là. C'est un excellent frappeur. Il a un très bon bras, puis je pense qu'il sait mieux s'en servir que son frère. Son frère avait un excellent bras derrière le marbre, sauf que... À un moment donné, il faut que tu saches quoi faire d'autre avec ton boss. C'est un peu comme Gary Sanchez avec les Yankees. Donc, ce sont mes cinq choix. Riley, Smith, Baldwin, Jensen, Contreras. Puis, Marc, je vais te laisser aller. J'ai l'impression qu'il y a des noms qui se ressemblent là-dedans.
Ben oui, c'est inévitablement, ben oui. Ça se ressemble. Tu sais, c'est chacun nos styles. Là. Moi, exact. Évidemment, je vais y aller rapidement. C'est sûr que Riley et Will Smith, j'avais un et deux comme toi aussi. Ouais. Tu sais, Will Smith, aussi, il frappe dans le cœur de la formation. Tu sais, c'est pas un gars qui frappe 7-8. Il va chercher, évidemment, sa part de points produits. Moi, j'avais mis Contreras avant Baldwin. Mais tu sais, on s'obstinera pas pour 3-4, 4-3 à ce niveau-là. Le cinquième, c'est là que ça a jonglé pas mal. J'aime beaucoup ton choix de Jensen. J'avais Kyle Teal. Moi, je vais vous dire une chose. Je pense qu'Adley Rutschman va rebondir. Je vous dis pas qu'en ce moment, c'est le meilleur, mais je pense que Rutschman... on le mettra plus dans le cœur de la formation, dans le sens que on comptait beaucoup sur son coup de bâton. Il va revenir, selon moi, ce gars-là a trop de talent et trop de qualité. Mais moi, j'ai mis Logan O'Happy. C'est un gars que j'ai toujours aimé. Ouais. J'ai hésité beaucoup avec Kyle Teal. Bon, j'ai un petit penchant. J'ai joué avec le père de Kyle Teal, Garrett Teal. fait que c'est sûr que moi, Kyle Teal, je l'aime beaucoup. Mais tu sais, c'est sûr que il y en a des bons jeunes. C'est intéressant ce que Jean-Michel disait, c'est qu'on pourrait aussi sortir la liste. Là. C'est quoi l'avenir là, dans les 3-4 prochaines années au niveau des jeunes receveurs? Fait que on peut, dans le fond, Jean-Michel, aller sortir une liste là, qui est fort intéressante. Mais il faut être très précis dans nos demandes. C'est un peu ça le message.
Oui, puis ça va être intéressant parce qu'on va pouvoir, au fur et à mesure de la saison, quand même comparer nos prédictions de début de saison, juste pour voir à mi-année, là, est-ce que Alain, l'intelligence artificielle ou toi, Marc, aviez les bons choix? C'est une position où il y a souvent des joueurs qui émergent, comme le catcher Ramirez là, des Marlins l'année passée. Je pense pas que personne l'avait nécessairement vu venir. Mais bon, moi, c'est ma position préférée. C'est la plus complexe du baseball. Quand je joue encore au baseball et au softball, ben, c'est comme catcher. Alors, ça me faisait plaisir de prendre cette position-là là, avec vous aujourd'hui. Donc, voilà. Puis, on va trouver un autre bon sujet pour la semaine prochaine. Messieurs, j'ai déjà hâte de vous revoir.
C'est fort intéressant, Jean-Michel. Merci. Et nous aussi, on a très, très hâte de pouvoir écouter ce que tu as à dire là-dessus et partager nos impressions sur tout ce qui va entourer. Que ce soit l'évaluation des joueurs, la meilleure façon de confectionner une équipe, ça peut aller jusque-là. Meilleure façon de recruter au repêchage. Il y a bien des choses sur lesquelles on pourra s'attarder au cours de la prochaine saison. Jean-Michel Larsonneau, merci beaucoup. Puis on regarde ça pour 2026. Là, je suis convaincu que les gens vont y trouver leur compte.
Super, merci beaucoup, messieurs.
C'est le temps maintenant de la carte de la semaine. C'est une présentation de cartes-union-dépôt.ca. C'est votre détaillant de cartes sportives et non sportives. Plus de 60 000 articles en vente sur eBay et une cote parfaite de satisfaction à 100 %. C'est la carte de José Canseco de 1986 de Don Ross, la numéro 39. Je vous précise que la carte sera disponible mercredi plutôt que, évidemment, mardi midi. Écoute, c'est un ensemble de 660 cartes au total. Pourquoi elle est spéciale? Parce que Topps a émis une carte de Canseco seulement l'année suivante, donc l'année qui suivait son année recrue. Recrue de l'année, joueur le plus utile à son équipe par la suite en 89. Premier joueur à avoir fait partie des 40-40. Premier joueur, je pense, ouvertement associé aux stéroïdes. Et c'est là, Marc, que ses problèmes ont commencé. On ne se trompera pas. Il a fait les manchettes plus souvent qu'à son tour pour ce qu'il a fait hors du terrain. De sorte qu'il s'est promené beaucoup après son séjour avec les Aces d'Oakland. Il a même terminé sa carrière avec l'uniforme des Expos de Montréal au camp d'entraînement. Et je vais te laisser parler de son expérience parce que tu étais avec les Expos au moment où José Canseco a porté l'uniforme des Expos de Montréal.
Écoute, Alain, tu ne pouvais pas le manquer. Puis, tu sais, si tu parles de stéroïdes, c'est sûr. En tout cas, disons qu'il aimait ça se promener sans T-shirt, sans chandail. Écoute, c'est un gars spécial. On le sait, Alain, il a toujours dit aux gens, les gens bien mieux venir me voir être tiré sur des prises que voir des gars frapper des simples. Il voulait donner son spectacle. Il savait qu'il était il créait de l'intérêt chez les journalistes puis tout le monde. Puis honnêtement, là, tu sais, il a pas fait l'équipe, là, rappelle-toi, là, il a porté l'uniforme durant le camp d'entraînement, mais c'était une distraction, on va dire ça de même, là, à l'intérieur du vestiaire. Ceci étant dit, je sais que les stéroïdes ont fait beaucoup de dommages, mais ils ont donné tout un spectacle aussi. Tu sais, Canseco avec McGuire, avec les A's,
c'est un bonhomme, comme tu dis, Marc. Écoute, il a écrit deux livres. Un qui étalait son utilisation des stéroïdes. Tout le monde l'a planté lorsqu'il a ouvert son livre. Puis finalement, l'avenir lui a donné raison par la suite. Il a écrit un deuxième livre qui disait « C'est vindicated ». En d'autres mots, ça veut dire « Non, non, j'avais raison ». C'est à peu près ça que ça voulait dire, le titre de son livre.
Et ne pas inviter au même party Alex Rodriguez et José Canseco.
Mark McGuire, c'est la même chose. Il n'y a pas eu de réunion où les deux étaient à la même place en même temps. Mais regarde, il a diverti. Puis ça, il le savait qu'il y avait un pouvoir dans ce sens-là. Puis il s'en est très, très bien servi.
Ouais.
Le baseball, c'est plus qu'un divertissement. Après des mois d'inactivité, on veut bouger sur des terrains de balle. Rendez-vous au baseballquebec.com. Débranche tout et on va jouer dehors. Ce sera ton été de baseball.
C'est le temps maintenant d'encourager les jeunes à la lecture et pourquoi pas au baseball en même temps. Et vous n'avez qu'à, pour les jeunes, aller sur le site de notre ami Bob McDuff, baseballbob.ca. Donc, Baseball Bob qui est un auteur de livres destinés aux jeunes avec le thème central de baseball. Il y a déjà 5, il y en a d'autres qui vont suivre au cours de l'année 2026. Donc, c'est une excellente occasion de s'adonner à la lecture et faire appel à notre imagination du même coup. Marc, on va s'attarder sur ton homonyme Connor Griffin. Choix de première ronde des Pirates de Pittsburgh en 2024, il a été repêché au 9e rang au total. Il arrivait des écoles secondaires du Mississippi. Et moi, je me rappelle du repêchage, Marc. Quand le nom de Griffin a été nommé, on disait que c'est peut-être lui qui a le plafond le plus élevé de tous les joueurs. D'ailleurs, son bonnet de signature, Marc, est 1,5 million plus élevé que celui qui a été repêché avant lui. Il y avait une offre pour aller à LSU, Louisiana State University. On lui a donné assez d'argent pour le convaincre de ne pas aller à LSU, donc de tout de suite s'en aller comme professionnel. C'est un joueur, on dit qu'il a tous les outils. Il a un bon physique d'athlète. L'année passée, il marque au-dessus de 60 puits volés. Au niveau de la puissance, il ne l'a pas encore développé. Il faut dire que physiquement, il n'a pas encore 20 ans, donc il va ajouter probablement du coffre à sa charpente, mais très haute moyenne au bâton. Et déjà, il a fait sentir sa présence au camp des Pirates de Pittsburgh, qui est dans la bonne équipe. On a besoin d'attaque chez les Pirates.
Écoute, il y en a déjà 3 circuits au camp d'entraînement, donc la puissance va arriver peut-être plus tôt que tard dans son cas. Tu as parlé de sa vitesse. Écoute, Alain, 6 pieds 3, 220 livres. tu sais, on parlait de Spencer Jones un peu plus tôt, de Jack Caglione. Là, c'est Connor Griffin. On a des bonnes pièces d'hommes qui s'en viennent comme avenir du baseball. Écoute, on n'a pas vu un adolescent faire une équipe du baseball majeur depuis Ken Griffey, là, ou presque, tu sais. Ça serait le fun de le voir. Moi, je pense qu'il tombe dans une bonne organisation. Les Pirates, faut-tu le rappeler, ils ont Paul Skeens. T'arrives ouais. avec un Connor Griffin. Moi, en tout cas, j'espère qu'il va faire l'équipe. Et s'il fait pas l'équipe, vous allez entendre parler de lui, là, assurément, là, ouais. cette année puis dans les prochaines années. C'est une future vedette. Tu sais, quand on dit le gars a tout, là. Il a le physique, il a la vitesse, il a la puissance, il a le charisme, ça vient tout avec. Puis, écoute, ses débuts sont très impressionnants au camp d'entraînement cette année, du fait qu'on en parle nous maintenant. Mais c'est vraiment un athlète hors pair. Je sais parfois, on dit qu'il ne faut pas amener un jeune trop tôt dans le baseball majeur, parce que même si physiquement la maturité est là puis il est prêt, parfois mentalement c'est un petit peu difficile. Écoute, j'ai vu quelques entrevues de sa part, il semble un gars quand même assez solide. Ouais. Parce que pourquoi? Parce que si tu commences dans le baseball majeur puis ça va pas bien en avril puis en mai. Ouais. C'est pas facile de récupérer des fois par la suite. Alors, faut que tu t'assures que, mais moi, j'ai bien confiance, puis j'aimerais vraiment qu'il fasse l'équipe. Ça donnerait vraiment un beau, un peu d'énergie à cette organisation des Pirates de Pittsburgh.
Et juste revenir sur le repêchage de 2024, Marc, le tout premier choix avait été Travis Bezzana, un jeune Australien d'Oregon State. Avec les Guardians de Cleveland, on aimait beaucoup ses qualités athlétiques. Devrait faire ses débuts dans le baseball majeur cette année. Et parmi tous ceux qui ont été repêchés, devant lui, il y en a quatre qui ont déjà fait leur début dans le baseball majeur. Le deuxième choix au total, Chase Burns, qui a un potentiel, je pense, assez élevé. Et autre note, ben, celui qui s'est le plus distingué, c'est Cal Kurtz, qui a été repêché quatrième. Et dans le cas de Griffin, il avait été le premier joueur issu des écoles secondaires à avoir été repêché. Tous les autres étaient issus des rangs universitaires. Ça, c'est une tendance, évidemment, qu'on a observée avec... Tu comprends, on s'en rappelait, Marc, quand on a éliminé plusieurs équipes des ligues mineures, là, on se doutait que les universités étaient pour servir hein, de club-école, ni plus ni moins. Donc, c'est une tendance qu'on a observée, mais il a été tout le premier joueur issu des écoles secondaires. Et les autres qui ont fait leur début dans le baseball majeur, je parlais de Burns, Kurtz, Jack Caglione, des Royals de Kansas City, et Christian Moore, des Angels de Los Angeles. Ce sont des joueurs qui ont réussi à faire leur début dans le baseball majeur. Il y en a un que je vais observer, Marc, c'est Condon avec les Rockies du Colorado qui a été blessé dès sa première année. A connu un bon automne avec les prospects. Bon œil au bâton. Bonne moyenne, bon MPP. Pas beaucoup de coups de circuit. C'est pour ça, Marc, qu'on l'avait repêché au Colorado. Plusieurs prétendaient que c'était le meilleur frappeur de tout le groupe. Donc, ce sera à suivre dans son cas. Surtout que les Rockies ont besoin... Ben, tu parlais des Pirates, là, les Rockies ont cruellement besoin de, d'énergie là présentement. Marc, je veux revenir aux Yankees de New York. Et Cici Sabathia, on va retirer son numéro. Certains disent... Bon, il a passé pas mal de temps avec Cleveland. Les Yankees ont pas mal de numéros retirés. C'est un gars qui en a donné beaucoup aux Yankees de New York. Et la Série mondiale, la conquête de 2009, là, le joueur clé, c'est quand on a embauché Cici Sabathia. C'est pas compliqué, on cherchait un partant numéro un. Tu sais, celui qui sert de locomotive, là, ben c'est lui qui a permis aux Yankees de remporter leur dernière Série mondiale.
Tout à fait d'accord avec toi. Est-ce que c'est suffisant pour avoir ton numéro retiré? Moi, je vais t'avouer, quand j'ai vu la nouvelle, j'ai fait comme... Tu sais, qu'il soit au temple de la renommée, c'est parfait, là. Tu sais, parce que c'est ouais. l'ensemble de sa carrière.
Ah ouais.
Et tout à fait d'accord avec ça. Mais, je sais pas, moi, tu vas au Yankee Stadium, tu vois, tu sais, je veux dire, ce sont des Yankees, je sais pas, il y a quelque chose de différent. Moi, si t'es pour retirer le numéro de Sabathia, Alain, il va falloir t'en retirer un paquet d'autres, là. T'sais, parce qu'il y a eu un impact, mais il n'y a pas eu un impact pendant très longtemps. Évidemment, c'est ça. Ouais. Regarde, écoute, ça a été... il a joué 11 ans avec les Yankees. Là. C'est quand même c'est quand même pas rien. Là. Mais écoute, moi, ma première réaction, c'est que j'ai été surpris. Puis là, ben, c'est sûr que tu regardes l'importance qu'il y a eu, puis tout ça. Mais je sais pas. Est-ce que tu le mets dans la même catégorie que les grands que tu retrouves dans le fameux l'endroit où chancente là, qui est phénoménal, soit dit en passant là. Ça sent l'histoire lorsque tu marches là tu as l'impression que tu as les fantômes des Yankees. Là.
Ouais.
Mais en tout cas, je suis très content pour lui. Tant mieux, c'est un bon gars. Hein. Tu vois que ce gars-là, c'est mm-hmm. c'est pris en main. Une superbe après-carrière présentement. Un gars très, très intelligent. Il mérite tout ce qui lui arrive. C'est juste que moi, ma première réaction, c'est que j'ai été surpris.
Ouais. Mais écoute, t'es pas le seul. Selon certains, ça dilue un peu la qualité de l'honneur. On n'enlèverait pas le numéro 3 de numéro 3 Babe Ruth, là, regarde, puis tous les autres dont on a retiré le numéro. Mais selon plusieurs, ça dilue l'honneur, mais je pense que ça n'empêche pas. Regarde, comme je disais, il a été un gros morceau de la dernière conquête de la Série mondiale, puis il est autant de la renommée. Chapeau pour sa carrière. Et quant aux Yankees, ben écoute, si ils ont jugé bon de le faire, qu'ils suivent pour les juger, mais on peut se poser des questions quand même, là. Marc, il y a un Québécois qui a signé avec les Blue Jays de Toronto. Je trouve ça très, très rafraîchissant et qui a fait son nom avec Trois-Rivières dans le baseball indépendant, Mathieu Vallée. Moi, j'adore ce genre d'histoire-là. C'est à lui maintenant de se distinguer à partir du moment où on lui donne une chance avec le baseball affilié.
Oh, écoute, tu l'as dit, c'est vraiment une belle histoire. Mathieu Vallée qui a volé des buts à profusion. Tu sais, le type premier frappeur qu'on a connu dans les années là, 80, 90, là, il est dans le profil parfait. Puis c'est ça que tu veux, Alain. T'sais, je comprends que la Ligue Frontier, les Aigles, que ce soit les Capitales, t'sais, des fois c'est plate là, pour les gens de Trois-Rivières parce qu'on aimait aller voir Mathieu Vallée, mais pour lui, là tu te retrouves dans le baseball affilié. T'es juste un petit peu plus proche encore d'atteindre ton but, ton rêve, c'est de jouer dans le baseball majeur. Et il aura l'occasion de le faire. Et regarde, lui, c'est un travaillant. Lui, c'est un gars qui il a compris l'art. Tu sais, quand on dit exploite tes forces sur un terrain de balle, lui, il fait ça. Lui, sa vitesse, il l'exploite, puis il l'exploite mieux que bien des gens. Puis tu sais, Alain, il y en a des joueurs qui jouent dans les ligues indépendantes professionnelles. Ouais. Il n'y en a pas une tonne qui se font signer dans les... Il y en a, évidemment, de plus en plus, mais il n'y en a pas une tonne. Alors, juste le fait que on a dit, écoute, qui a attiré l'attention, c'est tout en son honneur. Bravo, bon kid. Tu sais, ça donne espoir à tout le monde.
Ouais.
Tu sais, joue comme tu es capable, démontre ce que tu fais sur un terrain de balle, tu peux avoir une chance. Mais tu as raison de dire que maintenant, c'est à lui de la saisir, puis d'arriver, puis... T'sais, si j'avais un conseil à lui donner, c'est change pas là. T'sais, qu'est-ce qui t'a amené là? C'est ce qu'il faut que tu fasses maintenant. Là. Donc, oui, voler des buts intelligemment. Évidemment, là, c'est bien beau d'arriver avec des statistiques de 60, 75, 80 quelques buts volés. Mais t'sais, tu veux pas te faire retirer non plus 50% des tentatives. Fait que, vas-y, c'est un bon joueur de balle. Moi, je suis convaincu qu'il va connaître un beau succès. Puis là, ben, ça va être à lui de s'adapter. Puis on le sait, tu as les niveaux A, niveau 2A, niveau 3. Est-ce qu'on est capable de s'adapter à chaque niveau? Ben ça, c'est propre à chacun. Mais juste de savoir qu'il a été mis sous contrat, moi, je trouve que c'est un beau, très bel accomplissement de la part de Mathieu Vallée.
Oui, et juste remettre en perspective ce qu'il a fait avec Trois-Rivières l'année passée. C'était sa première saison complète. Il s'est très bien adapté, Marc. Il arrivait l'année précédente, il a joint les Aigles en milieu de saison après la fin de sa carrière universitaire. Mais l'an passé, Marc, il a frappé 352, moyenne de présence sur les buts de 428. Et tenez-vous bien, en 88 matchs, 83 buts volés. 6 fois seulement, on l'a pris à contre-pied. Donc, c'est sa rapidité qui va l'amener, évidemment, plus haut. Et s'il se rend sur les buts, s'il y a une combinaison des deux, Marc, ça pourrait être prometteur. Maintenant, décès de Bruce Fleming, Marc. Tu l'as observé pendant plusieurs années, Bruce Fleming. C'est un nom qui est associé à ma jeunesse au baseball, Marc. Je ne peux pas dire que je portais attention beaucoup aux arbitres. Il y en avait des plus spectaculaires que lui. Mais le nom que j'ai, le mot que j'associe à Bruce Fleming, c'est respect quand j'entends ce nom-là.
Ouais, c'est ça. C'est un officiel, un arbitre qui Effectivement. Moi, j'avais toujours l'impression que chaque fois que je regardais un match des Expos à l'époque, c'était Bruce Fleming qui était derrière la marbre. Je sais pas pourquoi, là, mais... Ouais. C'est ça, c'est un officiel, effectivement. Tu sais, t'avais des Dutch Runners, là, qui étaient pas mal plus, bon.
Hein? Oui, plus volubiles.
Quand c'était une prise, tu savais que c'était une prise, là. Mais Bruce Fleming, effectivement, c'était un peu l'arbitre qui démontrait, tu sais, qu'il avait le respect joueur-arbitre, là,
ouais.
qui s'assurait que tout se déroulait de la bonne façon. Je pense que c'est important de souligner, là, c'est un gars. Tu sais, les officiels ont eu un impact majeur là sur ce qui se passe, sur le spectacle. Puis lui, je pense qu'il a fait les choses de la bonne manière.
Oui. Écoute, il a commencé à arbitrer à 18 ans dans les années 50. Puis on s'en rappelle. Donc, il était très, très longtemps arbitre. Ça a pris une dizaine d'années avant qu'il ait son poste d'arbitre permanent dans le baseball majeur. On va rester là-dedans, Marc, avec les arbitres. Parce qu'on va parler de la zone électronique, pas des arbitres nécessairement, quoi qu'on pourrait peut-être dévier, mais là, la zone électronique, on a quand même un échantillon intéressant, puis je lisais certaines choses, Marc, relativement à leur utilisation. L'équipe qui a le plus de succès, ce sont les Aces. Ce sont les Aces avec à peu près 2 demandes sur 3 avec lesquelles on a eu du succès. Puis l'équipe qui a fait le plus de demandes, et ça, je suis vraiment pas surpris, Marc, je sais pas si tu as vu les données à cet effet-là. Quiconque a vu les Yankees de New York, sont vraiment pas surpris de constater que c'est Aaron Boone et les Yankees qui ont demandé le plus, c'est les plus chialeux du baseball majeur, diront certains, mais ce sont eux qui ont fait le plus de demandes par match de revision.
Ce qui est important de comprendre, Alain, on va expliquer rapidement, OK? Il faut que tu fasses ta demande à l'intérieur de 2 secondes, donc ça peut pas venir du banc.
Ouais.
Tu peux pas avoir, de toute façon, un entraîneur peut pas crier, on veut revoir ça. Ça marche pas. Donc, ça, c'est la première des choses. Deuxième des choses, dans ce cas-ci, c'est assez clair que les lanceurs n'ont pas l'œil. Les lanceurs qui demandent la révision, c'est pas un très bon pourcentage depuis le début du camp d'entraînement. Alors, tu as beau penser que c'est arrivé une couple de fois où même le lanceur s'est tapé sur la casquette, puis tu vois que le receveur a dit non. Demande de pas, là. Ça te donne une idée à quel point. Alors, je pense vraiment, tu sais, on en avait parlé, Alain, mais les équipes vont probablement laisser les receveurs prendre cette décision-là éventuelle. N'oubliez pas qu'il y a juste 2 contestations. C'est-à-dire que, tu sais, si tu le demandes en première manche puis tu n'as pas raison, il t'en reste une pour le reste du match. C'est sûr que tu peux en demander, tant aussi longtemps que tu as raison, tu peux en demander 20 contestations. Mais ce qui est intéressant, ce que j'aille pas à l'aide, parce que les gens me disaient, ouais, mais là, il me semble qu'il y en a pas mal de contestations. 1, c'est le camp d'entraînement, donc on essaie des choses, ça c'est clair. Mais 2, Alain, tu tapes à l'intérieur de 2 secondes, l'officiel se retourne, à l'intérieur d'un 7-8 secondes, tu as déjà ta réponse. Fait que je pense pas que c'est ça qui va retarder tant que ça, on verra ce que ça va donner, mais rapidement, on va voir les tendances, puis... Moi, on les a vus au camp d'entraînement. Comme j'ai mentionné, les lanceurs, c'était épouvantable. Là. Ils n'ont pas raison très, très souvent. Et tu remarques aussi à quel point il y a des frappeurs qui ont l'œil, qui l'ont vraiment l'œil, Alain. Là. Mais ça va changer, Alain. Moi, je pense que ça va changer bien des choses. Parce qu'on l'a vu, des quatrièmes balles qui avaient été... où on avait décerné une 3e prise, qui est devenue une 4e balle. Premier frappeur de la manche... Il est marqué 7 fois sur 10. Tu comprends? Il y a des choses qui vont changer. Mais ce que j'ai encore, je dirais pas plus apprécié, mais qui est encore intéressant, c'est qu'il y a des officiels qui aiment ça. Ils disent, moi, là, ça me permet d'être encore meilleur. Puis, tu sais, si je me trompe par 0,6 pouces, là, je suis pas mal à l'aise. Le problème, c'est que ça va exposer les mauvais officiels qui ratent la balle ou la décision par beaucoup. Il y a même une décision, je ne sais pas si les gens l'ont vu, le premier match de Dylan Cease, je pense que c'est même le premier frappeur qu'il a affronté. Là. 3 balles, 2 prises, Alain, ça ne pouvait pas être plus en plein centre. Là. Puis ça avait été décerné une balle. Alors, on est allé à la reprise, puis là, tu vois qu'à la reprise, la balle est presque dans le bullseye. Fait que c'est ça. Fait que ça va exposer un petit peu au départ, mais je pense que ça va rendre tout le monde meilleur, incluant les officiels. Alors, bonne décision de certains officiels d'avoir pris leur retraite pour commencer maintenant la nouvelle ère baseball en 2026 de la zone de prise électronique.
On n'aura pas de nom, mais il y en a certains qui ont fait des manchettes plus souvent qu'autrement ces dernières années. Marc, par rapport à tout ça, Il y a des joueurs qui vont voir leur valeur augmenter. Puis celui que j'ai en tête, je suis convaincu que tu l'as vu, c'est un gars comme David Schneider des Blue Jays de Toronto. Ouais. On a des données sur ce qui s'est passé au niveau 3A. Et il a été de loin le meilleur pour le pourcentage de revisions qui ont été à sa faveur au cours de la dernière saison. On le sait qu'il avait un bon œil, on le sait qu'il voyait beaucoup de tirs, mais ça vient confirmer que, regarde, c'est peut-être un talent, ça, que... Je ne sais pas si ça s'acquiert, mais en tout cas, c'est un talent que peut-être qu'on va mieux évaluer.
Oui, non seulement ça, Alain, mais on est capable maintenant, tu sais, évidemment, on peut le faire, là, mais on évalue aussi la qualité des élans, ou en fait, le nombre d'élans sur des tirs cadrés.
Ben oui.
Fait que, oui. Tu comprends? Alors, y a ça aussi, tu sais, fait que le joueur, là, peut-être qu'il frappe 200 en début d'année, mais écoute, il s'élance 9 fois sur 10 sur des tirs cadrés. Tu sais que ce gars-là va avoir du succès à un moment donné. Ouais. Tu comprends? Ou à l'inverse, tu sais, c'est un gars qui est souvent retiré sur des prises puis qu'effectivement, il y a beaucoup d'élan alors que les tirs sont hors de la zone des prises. Là, t'es un peu dans le trouble. Il va falloir que tu resserres un peu ta zone de prise. Alors oui, Alain, puis tu sais, la moyenne de présence sur les buts, on sait à quel point elle est importante maintenant. Alors, si tu vas te soutirer une couple de buts sur balle de plus par saison parce que ton bon œil puis que là, la technologie te permet de prouver que c'est bon, ben c'est sûr que ça va aider.
Oui, oui. J'ai bien hâte de voir l'évolution, moi, de l'utilisation, en fait, d'une révision des décisions des arbitres. On va terminer, Marc, avec un texte qui est sorti d'à peu près tous les médias au cours de la journée de lundi à propos du déclin de la moyenne au bâton. Écoute, ça m'a fait sourire, puis je t'ai écrit tout de suite quand j'ai vu le texte, Marc, puis je l'ai mentionné. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a tenu compte, qui nous écoute, qui nous regarde? Je faisais de l'ironie, là. Mais ça fait quand même plusieurs années, Marc, qu'on le dit que la moyenne au bâton, ce n'est plus un critère d'évaluation. Puis même, je vais te mettre au défi, Marc, parce que plusieurs reprises, tu as dit, un frappeur de 300, ça demeure un frappeur de 300. C'est même plus assez. Regarde, Luis Araez, c'est même plus assez si tu n'as rien d'autre à côté.
Ben écoute, c'est sûr, parce que tu sais, même il y a eu de la misère à chercher un contrat, là.
Ben oui.
Ben, en tout cas. C'est sûr qu'un frappeur, tu sais, parce qu'ils sont de moins en moins nombreux, là, les frappeurs de ben 300. Ouais. Mais il faut que ce soit 300 avec de la viande autour.
C'est ça.
Et la viande autour, ben, c'est soit une production en termes de puissance ou une production en termes de vitesse et de points marqués. Tu sais, faut que ça vienne avec à un moment donné, mais tu peux pas juste avoir cet aspect-là de ton jeu. C'est pour ça, Alain, que nous, à RDS, puis depuis quelques temps, évidemment, depuis plusieurs années, le fameux MPP, ou ceux qui regardent le baseball en anglais, le OPS, moi, lorsque cette statistique-là a été mise de l'avant il y a plusieurs années déjà, je trouve que déjà ça... Puis tu sais, moi, là, Alain, j'étais un frappeur de puissance lorsque je jouais junior, mais j'étais pas un frappeur de puissance, mais pas du tout au niveau professionnel. Puis... Là, évidemment, tout le monde tombe en amour avec le gars qui frappe des longues balles. Mais là, tu réalises que ton premier frappeur, qui se rend sur les buts, qui se tire des buts sur balles, qui vole des buts, qui marque des points, puis, oups, soudainement, son MPP, il est aussi de 800. Il est aussi élevé que le gars qui frappe 26 coups de circuit. Mm-hmm. Ben, moi, ça rend ce joueur-là pas mal plus efficace. Alors que, tu sais, peut-être que le gars qui vole des buts, qui se rend sur les buts, sa moyenne, t'sais, sa moyenne au bâton est peut-être de 2,90, puis le gars qui frappe 26 circuits, sa moyenne au bâton est de 230. Mais on a chacun 800 de MPP, donc on est productif, chacun de notre façon. Ouais. En fait, moi, ce que je trouvais que ça faisait, c'est que ça exposait le fait que tu as le droit d'avoir différents styles. D'abord, que tu excelles dans ce style-là, ça va te permettre, évidemment, d'être aussi efficace dans ton équipe. Alors que la moyenne au bâton n'est pas capable de prouver ça, là. Tu sais, je veux dire, que tu peux frapper 300 par une moyenne de présence sur les buts de 300, là. Parce que tu ne tires aucun but sur balle.
Oui.
Alors, c'est ça. Fait que, c'est sûr que, tu sais, de frapper au-dessus de 300, faut quand même que tu aies des qualités. Mais dans le baseball moderne, ça prend autre chose qui l'entoure.
Exactement. Puis Marc, je sais qu'il y en a qui prétendent, ben les joueurs ne cherchent que des coups de circuit, c'est ça qu'on recherche. Je mets un petit bémol là-dessus, puis j'ai un cas extrême, et c'est Lenin Sosa. Lenin Sosa, au cours de la dernière saison avec les White Sox de Chicago, il en a frappé une vingtaine. Et il n'est même pas sûr d'avoir un poste régulier. Pourquoi? Marc, il a frappé plus de circuits qu'il a reçu de buts sur balle. Tu sais, 22 coups de circuit, 18 buts sur balle. T'as moins de présence sur les buts, là, c'est... isolé, c'est la statistique la plus importante. On veut des gars plus dynamiques. Oui, tu vas me donner des coups de circuit. Quand Schwarber, regarde, il donne une tonne de buts sur balle, puis des bonnes présences au bâton. Si sur ça, c'est lent sur n'importe quoi, je m'excuse. Je ne veux pas l'avoir au bâton quand tu as ton meilleur releveur et que c'est corsé. Là.
Ben, c'est pour ça qu'il faut ajouter un aspect. Puis tu l'as dit, dans le cas de Schwarber, par exemple, c'est un très bon exemple. T'sais, oui, c'est un coup de circuit. Oui, il y a des retraits sur des prises. Mais le nombre de buts sur balle qu'il obtient, là, lorsque Harper vient au bâton, Schwarber, c'est les buts. Là. Ouais. Fait que tu comprends? Fait que lui, s'il fait un double d'un point ou un circuit de deux points, ben, c'est en raison de la présence de Schwarber. Donc, c'est là que ton but sur balle devient très efficace aussi. Alors, tu sais, on pourrait analyser ça de bien des façons, Alain, mais c'est sûr que si tu es qu'un frappeur de 300 sans rien vraiment d'ajouter autour, ça enlève ton efficacité, c'est clair.
Ouais, puis je vais finir comme ça, Marc. On parlait de Schwarber, tu peux parler de Bryce Harper. Pourquoi Alec Baum a eu près de 100 points produits 2 années de suite?
Ouais.
Il y avait deux gars en avant de lui là, qui étaient tous les jours sur les buts. Et c'est la clé là, pour produire à l'attaque. Mais voilà ce qui complète ce balado. J'espère que cela vous a plu. Il y avait beaucoup de sujets et il y en aura beaucoup d'autres tout au long de la saison 2026 qui promet. Alain Huzreau, Marc Griffin avec vous tout au long de la saison. Merci à Martin Villeneuve de nous permettre de faire quelque chose de bien visuellement avec ce balado. Je vous dis à la prochaine.
Balado Compte Complet vous a été présenté par Plan de Match à Boucherville et au Saguenay, fiers partenaires de votre passion.